Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver, merci d'être au rendez-vous. Nous allons revivre les temps forts de la semaine, bien sûr, avec les reportages de la rédaction. C'est un numéro de votre magazine que je dédie à Laurent Sadoux. Notre ami Laurent Sadoux, qui nous manque déjà, vous avez été très nombreux à nous écrire pour exprimer votre tristesse. Merci. Une semaine d'actualité donc, nous partirons pour la Syrie après l'attaque chimique présumée mardi dans la ville de Han Sherroun. Un fief rebelle et djihadiste du nord-est syrien. Ce raid aérien a provoqué la condamnation unanime de ce que l'on appelle la communauté internationale, si l'on excepte Moscou. Écoutez par exemple ce qu'a dit mercredi le pape François.
Exprimo la mia ferma deplorazione.
Je déplore fermement le massacre inacceptable survenu hier dans la province d'Idlib, où ont été tuées des dizaines de personnes sans défense, parmi lesquelles tant d'enfants. Je prie pour les victimes et leurs familles. J'en appelle à la conscience de tous ceux qui ont des responsabilités politiques au niveau local et international, pour que cesse cette tragédie et que l'on apporte de l'aide à cette chère population épuisée depuis trop longtemps par la guerre.
Et nous reviendrons dans un instant sur la riposte américaine vendredi matin dans la nuit contre une base de l'armée syrienne. Une semaine d'actualité à écouter aussi sur le site de la radio RFI.fr. Notre invité, quelqu'un que l'on a beaucoup écouté dans cette émission il y a quelques années déjà, quand elle était la correspondante de RFI en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique. Je veux parler de Stéphanie Braqueux. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Toujours journaliste dans l'âme ?
Dans l'âme.
Dans l'âme, tout simplement. Toujours en Afrique de l'Est ?
Toujours en Afrique de l'Est, oui.
Mais romancière désormais.
Voilà, exactement. Mon premier roman.
Vous avez tourné la page qui va être au cœur de cette émission, évidemment, ligne de fuite. Je disais qu'on vous avait beaucoup entendu ces dernières années, et parfois dans des contextes très difficiles, puisqu'on va parler de la guerre dans cette émission une fois de plus. Vous avez connu, par exemple, le conflit en Somalie ?
Oui, en Somalie.
Enfin, les conflits en Somalie.
Au Soudan du Sud, et puis un petit peu dans les Grands Lacs aussi. En fait, j'ai été basée, enfin je suis toujours d'ailleurs à Nairobi depuis 2006. Donc en ce laps de temps, j'ai eu l'occasion, oui, de pas mal voyager sur des terrains, et aussi donc des terrains de conflit.
Parce que vous avez eu une période baroudeuse, non ?
Je ne sais pas si on peut appeler ça baroudeuse, mais bon, en tout cas, c'est une région qui, oui, m'amenait à aller dans des endroits pas toujours très calmes, on va dire.
Et c'est vous qui avez vraiment choisi la Corne de l'Afrique, ou c'est le hasard qui vous y a conduit ?
Je pense que c'est une conjonction de hasard. J'avais passé 2 ans au Tchad, et j'avais envie de changer un petit peu de zone géographique tout en restant sur le continent africain.
Oui, donc vous êtes passé de l'Afrique francophone à l'Afrique anglophone.
Voilà.
Aussi. Ouais. Et aujourd'hui, donc, vous avez envie d'écrire. Quand je dis aujourd'hui, j'imagine que c'est pas aujourd'hui, ça remonte à quelques années. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette envie d'écrire ? Elle existe depuis très très longtemps, depuis que vous voulez être journaliste, ou c'est une autre période vraiment qui commence pour vous ?
Je pense qu'elle existe depuis très longtemps, mais qu'elle a été enfouie sous la profession de journaliste qui a beaucoup occupé ma vie, ma vie de jeune adulte, et cette profession a pris tout mon temps. Et l'envie d'écrire de la littérature m'a est arrivée à un moment donné où j'avais envie de prendre de la distance sur les choses, de prendre plus de temps pour tout simplement me pencher sur des sujets et raconter des histoires. Tout en me reposant sur une certaine réalité, parce que ce roman qui se passe le long de la ligne de chemin de fer entre Addis et Djibouti, je suis allée en Éthiopie et à Djibouti pour me baser sur une certaine réalité aussi. Mais c'était un travail complètement différent.
Alors ça veut dire que c'est l'histoire qui vous intéresse aujourd'hui ? Et les histoires aussi ?
C'est raconter des histoires.
Ouais. Comme un journaliste,
avec,
en fait.
Avec peut-être un contexte historique, comme c'est le cas ici, parce qu'on s'en détache finalement jamais. Et puis, je me suis rendu compte de manière un peu inconsciente, en fait, après avoir fini ce livre, qu'il y avait aussi un écho sur la période coloniale qui finissait, en fait, qui m'obsédait. J'étais assez obsédée par la question coloniale. Et donc, le choix, justement, de ce chemin de fer qui a été construit par les Français, même si l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, Djibouti l'a été, c'était une manière aussi de comparer les mémoires, individuelle, collective, et peut-être d'éplucher les différents sédiments qui sont laissés par les générations pour engager une multiplicité de récits plutôt qu'un récit unique. Je vis pas en France, mais une des choses que j'ai réalisées en suivant l'actualité française de loin, c'est que cette question de roman national qui ressurgit avec cette obsession du récit unique, moi c'était quelque chose, je pense, qui inconsciemment m'a aussi dirigée dans mon écriture en tout cas.
Alors cette histoire est une histoire familiale qui concerne trois générations, la plus jeune Emma, mais aussi son grand-père, son arrière-grand-père Henri et son grand-père Maurice, donc trois générations avec un secret à la clé. On parlera pas du secret parce que c'est important. On va y revenir bien évidemment. Il y a cette histoire familiale, personnelle, qui parle aussi de la mémoire. Et il y a aussi la mémoire, vous venez de le dire, Stéphanie Braqueuet, de l'histoire en fait. Et vous avez choisi un contexte bien précis qui est le contexte de l'existence, de la construction et du développement de ce chemin de fer d'Éthiopie. Avec cette compagnie franco-éthiopienne, un train qui a été créé à l'initiative sous l'impulsion de l'empereur Ménélique II, c'est ça ?
Exactement. Éthiopien. À la fin du 19e siècle, l'empereur Ménélique II souhaite donner un accès à la mer à l'Éthiopie et demande en fait à un de ses proches, qui était un ingénieur suisse, Alfred Illig, de s'en occuper. Donc il lui concède la construction du rail et il y aura beaucoup de mésaventures. Il y aura deux compagnies qui vont être créées. Une première compagnie qui va finir par faire faillite au début du XXe siècle. Et un an après, une autre compagnie avec cette fois la garantie de l'État français, qui donc garantit une certaine stabilité financière, ce qui n'était pas le cas de la compagnie précédente, pour continuer la construction du rail qui a commencé en 1897 et qui s'achève en 1917. Mais il faudra attendre encore plusieurs années, jusqu'à 1929, pour inaugurer la gare d'Addis-Abeba, dont le choix du lieu provoquait des controverses et
alors, compliqué. Une ligne de 780 km de long, donc une longue ligne où les trains roulaient à quoi, 35-40 km/h?
Voilà, le train roulait et d'ailleurs jusqu'à ce qu'il ne roule plus il y a encore quelques années, a toujours roulé, oui, très très lentement. Ça correspondait aux trains coloniaux et à leur construction.
Alors un train qui a été remplacé par un train chinois, on va en parler dans un instant, tout comme on va reparler de cette histoire familiale qui s'intègre dans ce contexte ferroviaire, dirais-je. Et partons pour la Syrie, Stéphanie Braqueuet. Donc après le raid aérien, l'attaque chimique présumée du régime mardi sur la ville de Khan Cheikhoun, un fief rebelle et djihadiste du nord-ouest syrien, correspondance régionale de Paul Khalife.
Les symptômes de l'exposition des victimes à des agents chimiques toxiques ne font pas de doute. Les images et les témoignages sont parlants. La Russie l'a d'ailleurs confirmé ce mercredi. Selon le ministère russe de la Défense, l'aviation syrienne a bien frappé, je cite, « un entrepôt terroriste contenant des substances toxiques ». L'Observatoire syrien des droits de l'homme avait fait état de frappes aériennes, alors que des sources de l'opposition syrienne ont évoqué des tirs d'obus chargés de gaz chimiques. Après le démenti catégorique de l'armée syrienne, le vice-ministre syrien des Affaires étrangères est le plus haut responsable officiel à avoir réagi. Faisal al-Mordad a rappelé que la Syrie avait respecté tous ses engagements internationaux et avait démantelé son arsenal d'armes chimiques. Le vice-ministre a ajouté dans un entretien à la chaîne Panarab el-Mayadin que Damas avait fourni à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques il y a quelques semaines des informations sur le stockage en Syrie par l'ex-branche d'Al-Qaïda de produits toxiques dans le but de les utiliser pour faire accuser le gouvernement syrien.
Et notez que les bombardements ont repris dans la localité de Khan Cheikhoun ces dernières heures. Les premières autopsies des victimes de l'attaque chimique, donc présumées, ont été réalisées en Turquie. Qui jeudi, correspondance d'Istanbul cette fois signée Alexandre Billette.
Ce sont les corps de trois personnes évacuées en Turquie mardi. Elles sont décédées peu après leur arrivée. L'autopsie a été menée par des médecins turcs sous la supervision d'experts internationaux, a bien précisé le pouvoir d'Ankara pour légitimer encore davantage les résultats. Et selon le ministère turc de la Santé, ceci indique que les victimes auraient pu être contaminées par des produits chimiques. Des échantillons seront envoyés à Ankara et en Europe pour plus de précisions, mais le ministre de la Santé turc, lui, n'a pas pris de précautions. Il affirme qu'il s'agit sans aucun doute de gaz sarin et que le régime de Bachar el-Assad est le seul responsable du massacre. Et les autorités turques déchaînées contre Damas, Recep Tayyip Erdogan a qualifié hier le président syrien de meurtrier. Un vice-premier ministre affirme maintenant qu'après ce massacre, la Syrie ne peut plus être gouvernée par le pouvoir actuel.
L'attaque chimique a été condamnée par le président américain Donald Trump, qui a nettement changé d'attitude sur la Syrie, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs jeudi. Et il a donc décidé de frapper Bachar el-Assad en ordonnant le bombardement d'une base aérienne, la base d'Al-Sherat, dans le centre du pays, près de Homs. Washington hier, Anne-Marie Capomaccio.
Donald Trump, avec ce raid américain, envoie certes un message à Bachar el-Assad, Assad, mais aussi à ses alliés russes et iraniens et aux voisins de la Syrie. C'est l'explication donnée après l'attaque de ce matin par le Conseil de sécurité nationale américain. Moscou a manqué à ses responsabilités. Les Russes sont soit complices, soit incompétents, a déclaré le secrétaire d'État Rex Tillerson. Le Pentagone a précisé que l'état-major russe a été informé avant le raid. Ce raid, 60 Tomahawk, lancé de 2 navires de guerre en Méditerranée, est une réponse proportionnée à l'attaque syrienne, un crime de haine qui a fait 86 morts, précise le ministère de la Défense dans un communiqué. Le président américain s'est décidé très vite après sa réunion d'hier avec le Conseil de sécurité nationale qui lui a présenté plusieurs options. Il a ensuite informé quelques membres du Congrès avant de donner le feu vert pour ce raid. Donald Trump est soutenu par les parlementaires, mais certains demandent à présent plus d'informations sur la stratégie des mois à venir concernant la Syrie.
Et pour suivre la situation, rendez-vous évidemment dans nos journaux. Direction Saint-Pétersbourg, maintenant en Russie, après l'attentat de lundi dans le métro de la grande ville touristique. Reportage de notre correspondante Muriel Pomponne.
Des bougies, des œillets, les habitants de Saint-Pétersbourg ont fait de l'entrée de la station du métro Plassenaïa un lieu de recueillement. C'est de cette station qu'est partie la rame de métro dans laquelle une bombe avait été déposée. Cette femme est très émue.
Ça fait mal, très mal. On était là quand ça s'est passé, c'est horrible. Saint-Pétersbourg est une ville très belle qui accueille tout le monde, ça me rend complètement malade. C'est terrifiant, ça fait très peur, une grande peur.
Un jeune homme veut déposer des fleurs à la station Technologichesky Institute, la station d'où les victimes ont été évacuées.
Nous voulons déposer des fleurs pour montrer notre solidarité contre les actes terroristes. Je ne connais pas les victimes, mais nous sommes tous pétersbourgeois.
La solidarité, c'est le maître mot pour les pétersbourgeois.
C'est notre devoir de venir ici et d'exprimer nos condoléances, de montrer que nous ne sommes pas indifférents. C'est important pour les victimes et leurs familles.
Vladimir Poutine aussi est venu déposer des roses, mais loin de la foule, et il n'a pas dit un mot. Le trafic du métro a repris très vite. Seule la ligne concernée par l'attentat est encore fermée hier soir, comme une urgence de reprendre une vie normale.
Le comité d'enquête a annoncé qu'une analyse ADN avait permis d'identifier l'auteur présumé de cet attentat. Au total, 13 personnes ont péri dans l'explosion, ainsi que cet homme de 22 ans, né au Kyrgyzstan, mais qui vivait depuis 2011 en Russie. Dans l'actualité internationale, il faut aussi souligner l'élection du socialiste bien nommé Lénine Moreno à la présidence de l'Équateur. Une semaine d'actualité, et là nous repartons dans la corne de l'Afrique, entre Éthiopie et Djibouti, avec Stéphanie Braquet. On a planté le décor tout à l'heure. On a parlé de cette ligne ferroviaire très particulière qui relie Addis Abeba et à Djibouti. Il nous faut parler maintenant de la famille, de cette famille qui va vivre dans ce contexte, dont l'histoire est racontée dans ce livre. 3 générations donc, Henri, l'arrière-grand-père, qui arrive à la fin des années 20 dans ce contexte, car il est nommé directeur de cette compagnie, justement.
Voilà, il est nommé directeur parce que il a un profil typique grande école, haut fonctionnaire et
à la française.
Voilà, il a fait l'IX, il a fait Polytechnique et il a toujours plus ou moins eu des envies de voyager, mais il vient de se marier avec une jeune femme qui elle aime bien son petit confort parisien, qui n'a pas fait d'études comme c'était le cas de beaucoup de femmes à cette époque et qui
On peut pas dire qu'il y ait grand amour entre eux. Hein.
Il y a beaucoup de conventions sociales entre eux, en plus de peut-être un certain sentiment amoureux, mais les conventions sociales, en tout cas, prennent beaucoup plus de place. Et évidemment, il veut partir et n'est pas sûr qu'elle veuille, mais il accepte le poste et se retrouve à Diredawa, qui est donc cette ville escale, en fait, du rail en Éthiopie. Et qui, voilà,
c'est une ville qui a été créée avec le chemin de fer. Hein,
exactement, qui s'est construite autour du rail. En fait, à la base, le tracé du rail devait passer par Harar, qui se trouve en altitude, et la construction de ce rail pour passer par Harar, c'est révélé beaucoup trop compliqué techniquement. Et donc, elle est passée par Dire Dawa, qui est dans la vallée. Et Dire Dawa est vraiment devenue une bulle francophone dans l'Éthiopie. Et on voit même, pendant le roman, que l'autorité judiciaire des Français, c'est pas du tout les Éthiopiens, même si l'Éthiopie est un pays totalement indépendant, c'est le consul de France.
Ouais, donc une vraie présence politique en fait dans cette zone, une zone où pendant l'histoire se déroule l'histoire, si je puis dire, la grande histoire, avec notamment la fuite d'Haïlé Sélassié en 1936, qui utilise d'ailleurs ce train pour aller vers Djibouti.
Exactement.
Par exemple.
Parce que on se trouve pendant la guerre italo-éthiopienne en fait, Mussolini qui a toujours juré de venger l'humiliation d'Adwa en 1898, où l'armée éthiopienne vient à bout d'une armée occidentale. Donc c'est la première fois que des Africains arrivent à vaincre une armée occidentale. Et donc cette humiliation des Italiens à Adwa, Mussolini veut absolument se venger de ça. Et donc il envoie ses troupes. Et en 1936, la guerre commence. C'est une guerre sanglante, une guerre cruelle, avec l'utilisation du gaz moutarde, qui à un moment apparaît aussi dans le roman, et d'ailleurs qui terrorise aussi pas mal les travailleurs le long de cette ligne, parce qu'ils ont peur du gaz moutarde des Italiens. Les Italiens qui réussissent à vaincre l'armée éthiopienne, et donc Haïlé Sélassié effectivement est obligé de fuir une nuit jusqu'à Djibouti pour ensuite prendre le bateau et rejoindre l'Angleterre. Et il ne reviendra en Éthiopie qu'en 1941, lorsque les Britanniques déboutent les Italiens de l'Éthiopie.
Alors ce qui est frappant, Stéphanie Braqueux, c'est que le personnel, les cheminots qui se sont occupés de cette ligne sont devenus francophones aussi.
Oui, parce que c'était une obligation. Une nécessité pour pouvoir travailler sur la ligne, il fallait apprendre le français. Donc ils ont tous, quand j'y suis allée en 2014 pour en interviewer, en rencontrer certains, on va dire que j'étais impressionnée par leur connaissance aussi, leur richesse littéraire qui, voilà, c'est aussi mentionné d'ailleurs dans le livre, on passe de Victor Hugo à plein de références littéraires comme ça parce qu'ils ont baigné là-dedans.
Avec une visite par la supposée maison de Rimbaud à Harar, dont vous parliez un instant.
À un moment donné, Emma, avant de rejoindre Addis Abeba, décide de passer par Harar, qui est un lieu mythique dont elle a entendu parler effectivement à travers Rimbaud et autres. Et en fait, le mythe s'effondre. Le roman est aussi beaucoup autour de légendes qui s'effondrent face à la réalité. Une maison soi-disant habitée par Rimbaud, alors qu'on est absolument pratiquement sûr qu'en fait il n'y a jamais habité. Mais voilà, ça participe de cette construction des légendes, même autour de la légende de Rimbaud.
Alors Emma, cette jeune fille d'aujourd'hui, pour le coup, là, nous ne sommes pas dans les années 30 du tout, commence une enquête après la disparition de son grand-père, Maurice, donc le fils d'Henri, j'espère que les auditeurs vont suivre, et cette enquête va révéler un secret dont, encore une fois, il ne faut pas parler, mais elle va commencer une enquête, la française, en Éthiopie et à Djibouti.
Oui.
Sur les traces d'Henri, son arrière-grand-père.
Le déclenchement, on peut en parler, puisque ça arrive dans les premières pages, en fait. Elle déménage la cave de son grand-père, un peu avec réticence d'ailleurs, et elle tombe sur un album de photos où elle découvre la photo de son grand-père dans un contexte colonial, et qui lui rappelle vaguement des récits qu'elle avait reçus quand elle était enfant, comme ces légendes familiales que n'importe qui peut recevoir quand on est enfant et qu'on remet pas forcément toujours en question. Et elle voit l'apparition en fait sur pratiquement toutes les photos d'un visage métisse, d'une petite fille métisse qui a environ 2 ans, et elle se rend compte qu'elle n'en a jamais entendu parler de cette métisse, et donc elle décide, après avoir appris quelque chose de supplémentaire qui va vraiment la décider à aller en Éthiopie, d'essayer de retrouver des archives ou des témoins de l'époque qui pourraient lui en dire plus sur ce qui s'est passé à l'époque.
Et donc elle va partir, prendre l'avion et suivre en quelque sorte le tracé de la ligne et essayer de rencontrer des gens qui auraient connu son grand-père et qui auraient souvenir aussi de son arrière-grand-père Henri. On va continuer à parler de cette belle histoire dans ce contexte bien particulier de cette ligne de chemin de fer, Stéphanie. Nous allons faire une pause pour l'instant, écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans 3 minutes, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
Mémoire d'un continent.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour notre voyage dans le temps au cœur de 7 jours d'événements et notre voyage tout court avec Stéphanie Braqueux qui, dans son roman Ligne de fuite, nous emmène en Éthiopie et à Djibouti.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Stéphanie, avant de reprendre la route de l'Afrique, il nous faut parler de la France et de la campagne présidentielle. Mais d'abord un tour en Guyane, où le mouvement social qui touche le territoire a continué cette semaine, avec à son début, au début de la semaine, l'occupation du site de lancement des fusées de Kourou. Reportage de Pierre-Olivier.
À Kourou, la population venue nombreuse est détendue.
Ce que nous demandons, nous voulons plus d'hôpitaux.
Au même moment, la tête du cortège arrive devant les grilles de la base spatiale. Les collectifs obtiennent d'être reçus par le directeur dans une salle de réunion. Ils ont un objectif.
Nous savons bien comment cela fonctionne. Nous savons que votre voix est très bien entendue à l'oreille des plus hautes institutions françaises. Alors aujourd'hui, nous voulons que vous expliquiez que votre activité restera bloquée tant que la situation sera bloquée.
Didier Fèvre, le directeur du centre spatial, est surpris par cette demande.
Je ne suis pas en mesure d'apporter la réponse et vous le savez très bien. Je viens de dire que ce qui était entendu ici, mais qui n'est pas nouveau, qui est connu, sera répercuté via le CNES bien sûr et via notre tutelle. Il y a l'État qui est ici.
Cette réunion aurait pu en rester là, mais les collectifs et les élus décident finalement d'occuper la salle de réunion et refusent d'en sortir.
Le centre spatial guyanais, c'est le fleurant. Donc on essaye qu'on soit entendu jusqu'en Europe. Si c'est pas pour demain, ce sera pas après-demain, mais on va y rester jusqu'à avoir une réponse du gouvernement.
Dans la foule massée devant les grilles, beaucoup parlent avec malice de cette nouvelle action comme du nouveau coup d'éclat des collectifs.
Le Conseil des ministres a acté mercredi le plan d'urgence d'un peu plus d'un milliard d'euros en faveur donc de la Guyane. Le collectif pour que la Guyane décolle, qui pilote le mouvement de protestation, a exigé dimanche 2,5 milliards d'euros tout de suite. Irréaliste, a dit le gouvernement. L'élection présidentielle, donc, premier tour dans 2 semaines, et mardi soir un débat télévisé avec les 11 candidats, Anthony Latier.
2 heures de débat viennent de s'écouler quand Philippe Poutou porte l'estocade à François Fillon d'abord.
C'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là.
Avant de se tourner vers Marine Le Pen.
Quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va.
La candidate d'extrême droite aura été la plus ciblée par ses concurrents, notamment par Emmanuel Macron, sur la question européenne.
Le nationalisme, c'est la guerre. Moi, je viens d'une région qui est pleine de ces cimetières. Si vous voulez.
On ne se présente pas comme la nouveauté quand on ressort des vieilles badernes qui ont au moins 50 ans.
Mais Madame Le Pen, vous ressortez les mensonges qu'on entend depuis 40 ans et qu'on entendait dans la bouche de votre père.
Jean-Luc Mélenchon s'y met, lui aussi, quand la candidate d'extrême droite propose l'installation de crèches en mairie.
Fichez-nous la paix avec la religion. Nous ne sommes pas obligés de subir vos foucades, vos trouvailles, votre manière de nous imposer à tous une manière de vivre qui n'est pas la nôtre.
Jean-Luc Mélenchon est, lui, dans la ligne de mire d'un Benoît Hamon qui cherche à refaire son retard et marquer sa différence.
J'ai un désaccord avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Là où vous mettez très haut la barre des menaces, il aurait fallu que vous mettiez très haut la barre des solutions. Ça manque de solutions, votre programme sur l'Europe.
Les échanges et les interventions se poursuivent. À minuit passé, Jean Lassalle trouve que
ce débat est magnifique.
Et historique, rappelle la présentatrice Ruth Elkrief en conclusion.
Et ce sont ceux que l'on appelle les petits candidats qui ont crevé l'écran en mardi soir d'évidence. Valérie Gaz.
Comme prévu, ce sont les petits candidats qui ont été les plus offensifs. Dans ce débat inédit à 11, ce sont eux qui avaient tout à gagner à faire entendre leurs différences. Et Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste, n'a pas laissé passer son tour. C'est lui qui s'est chargé d'attaquer sur les affaires et la probité, mettant mal à l'aise François Fillon et Marine Le Pen, les deux candidats qui ont maille à partir avec la justice. Nicolas Dupont-Aignan a aussi essayé de rappeler à ses adversaires François Fillon et Emmanuel Macron leur passé au gouvernement pour mettre en avant leurs échecs. Chacun a donc joué sa carte dans l'espoir de marquer quelques points. Du côté des 5 principaux candidats, l'exercice était plus compliqué. L'objectif était donc surtout pour eux de passer ce débat sans dégâts, bref, d'éviter la faute. Ils ont géré. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont bien eu quelques échanges vifs, histoire d'installer un peu plus dans les esprits le duel que les sondages leur prédisent au second tour, mais pas plus. Il n'y aura eu ni grand gagnant, ni véritable perdant.
C'est RFI que vous écoutez, une semaine d'actualité en particulier. Merci de votre fidélité. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphanie Braqueuet, qui vient d'écrire un livre que j'ai beaucoup aimé, un roman, je ne l'ai pas dit encore, mais il faut que je le dise, sinon vous ne seriez pas là, Stéphanie. Un roman formidable, qui est à la fois un roman sur l'intime, sur la mémoire, et un livre d'aventure aussi, un roman d'aventure, un roman publié chez Jean-Claude Lattès. Est-ce que vous suivez les élections là où vous êtes en Afrique, la campagne pour les élections présidentielles? présidentielle.
Oui, je la suis tout simplement parce que je vais voter en tant que citoyenne française. Donc oui, je la suis, mais bon, forcément de plus loin que si j'étais en France.
Elle vous semble intéressante? Donc nous n'irons pas plus loin dans le commentaire. Nous allons repartir plutôt en Éthiopie et à Djibouti. Il faut insister sur le fait vous avez commencé à le dire dans la première partie, que les Français se sont vraiment occupés de cette ligne de chemin de fer. Sans doute aussi parce qu'ils étaient supposés être les maîtres en matière ferroviaire.
Oui, tout à fait. Oui, il y avait une vraie connaissance et ils s'en sont occupés. En fait, je voudrais juste revenir sur la question sur la campagne. Il y a quand même une chose que j'ai suivie particulièrement, ouais, parce que ça me touche et ça touche aussi le cœur du roman, c'est la question coloniale et toute cette émotion autour des déclarations d'Emmanuel Macron. Pour moi, ça signifiait vraiment que, enfin pas que pour moi d'ailleurs, que la France a un passé refoulé, comme plein d'autres.
Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron a parlé de crimes contre l'humanité.
Oui, pardon. Et ça a provoqué l'ire d'une certaine partie de la classe politique. Et il y a un côté très émotionnel et très refoulé dans ce rapport de la France à l'histoire coloniale. Et c'est à la fois pas digéré, mais aussi très méconnu. Et le personnage principal, Emma, dans le roman, raconte que au collège et au lycée, elle a pratiquement rien appris. Alors elle parle du continent africain, mais aussi du coup de la colonisation et de la période de la colonisation et décolonisation. Et ma génération, c'est mon cas, et je sais que c'est le cas aussi des générations plus jeunes, en troisième, seconde, première, en général, moi je me souviens d'un prof qui me disait écoutez, on n'a pas le temps de faire la décolonisation, donc vous apprenez les pages par cœur là, et on va se focaliser sur les Trente Glorieuses. Mais ça dit aussi quelque chose de l'ignorance de la France sur son passé colonial et d'une espèce d'exigence, encore une fois j'en reviens sur cette question de récit unique, et d'écarter la possibilité de la multiplicité des récits et du changement de point de vue, d'arrêter de penser cette question-là du point de vue franco-français.
Alors, fait colonial, Stéphanie Braquevé, Kema, qui va faire donc cette enquête pour découvrir qui est derrière cette photo qu'elle a vue dans une cave un jour, vous l'avez expliqué tout à l'heure, ce fait colonial, elle le découvre. Elle découvre que les cheminots étaient par les Français, enfin en tout cas pour ceux qui sont encore vivants, qu'il y avait une certaine, finalement, dans cette compagnie, une certaine intégration, pour le coup,
oui, autour du train. Et le fait d'être employé au chemin de fer, c'était aussi la garantie d'un revenu très important à l'époque, de pouvoir faire vivre sa famille, y compris sa famille élargie, et elle s'en rend compte quand elle rencontre un des plus vieux cheminots qui lui raconte ça, qui lui dit que pour lui, c'était une belle carrière. Donc ils ont tous la nostalgie de ce train, mais la démarche d'avoir trois voix dans le roman, c'était aussi de montrer une certaine forme d'incommunicabilité entre les générations, et aussi de replonger dans la pensée coloniale et raciste de l'époque. Henri n'est pas forcément un méchant bougre,
Henri, qui est l'arrière-grand-père, qui est l'arrière-grand-père, qui a été directeur à la fin des années 20 de cette compagnie.
Ouais. Et qui est envoyé à Djibouti et qui veut absolument en connaître un peu plus sur les peuplades, et donc qui lit la littérature coloniale, que pour le coup j'ai relu. Il y a un chapitre qui se passe au moment de l'exposition coloniale, ouais, à Paris, Porte Dorée. Ouais, ouais. Et pour le coup, de relire tous ces textes qui figent des peuples, comme par exemple les Issa, qui sont très combatifs, les Afars qui sont difficiles à dompter, tout simplement parce que à l'époque, les Afars ont été complètement mis de côté par la construction du train. Les Issa, ça leur plaisait pas trop non plus qu'il y ait un rail, mais ils ont été finalement, ils ont connu une certaine forme d'intégration de ce chemin de fer en étant embauchés comme gardiens, en fait, comme miliciens qui protégeaient le rail. Donc c'est, voilà, cette espèce de description figée des indigènes, entre guillemets.
Alors Henri, qui est donc un des récits
qui parsème
le livre, Stéphanie Braquevé, fait un jour une rencontre, une fois arrivé sur place, en tant que directeur, avec une jeune femme, et c'est, on peut dire, un coup de foudre, on ne va pas en dire plus, là encore, mais ça va bouleverser, en fait, cette famille.
Ça bouleverse cette famille.
Ça va d'abord le bouleverser lui, et ensuite bouleverser les générations qui vont suivre.
Avec l'existence d'un secret et d'un non-dit qui pèse de génération en génération, ça m'intéressait aussi de creuser cette question de secret et de silence qui est parfois beaucoup plus lourd à porter que des paroles. Et cette rencontre, finalement, on n'en connaît pas beaucoup sur cette femme, mais c'était un choix délibéré, parce que même dans sa démarche à lui de tomber amoureux d'une femme du coin, donc
on peut dire qu'elle s'appelle Odane.
Voilà, c'est donc d'une Somalie.
D'une grande beauté, vous la décrivez comme étant une femme d'une grande beauté.
Il la décrit comme étant d'une grande beauté, et Emma est plutôt d'accord en voyant des photos, mais c'était toujours dans cette perspective où les indigènes, encore une fois je reprends un vocable de l'époque, existaient beaucoup par leur trait physique, on connaissait pas grand chose d'eux, et il n'y a pas forcément une grande curiosité de la part d'Henri non plus, qui, encore une fois, est un produit de son époque. Donc il n'y a pas du tout de jugement, mais il y a une manière de, voilà, d'essayer de rentrer dans la psychologie de ce personnage des années 20, 30, 40.
Alors cap vers l'Afrique, maintenant l'Afrique d'aujourd'hui, Stéphanie Braqueuet, direction le Mali, où une opération militaire d'envergure était en cours ces derniers jours à la frontière avec le Burkina Faso, à Bamako mercredi, Anthony Fouchard.
Des hélicoptères français, des blindés et des militaires venus de trois pays, la France donc, le Mali et le Burkina Faso, pour une opération de coopération transfrontalière dénommée Panga. Depuis le 26 mars, plusieurs centaines de soldats enchaînent les opérations dans la zone d'Ombori, c'est entre Gao et Mopti dans le centre du Mali. Objectif, débusquer des terroristes qui se cacheraient dans cette zone, notamment dans la forêt de Féro qui s'étend de part et d'autre de la frontière malienne et burkinabé. Cette forêt abriterait de nombreux terroristes selon plusieurs sources sécuritaires. Notre objectif, c'est de les débusquer ou à minima, de les déranger et de les faire sortir. Voilà ce que confie un militaire français. Ce n'est pas la première opération de ce genre, mais c'est la première fois qu'un tel niveau de coopération est atteint, souligne cette même source. Des soldats français venus d'Ansongo sont même passés temporairement côté burkinabé pour mener des opérations en appui des armées du Burkina et du Mali. Un poste de commandement tripartite a été installé à Mopti pour coordonner les efforts et il restera en place toute la durée de l'opération qui doit se prolonger encore quelques jours.
Et je vous rappelle qu'un soldat français de l'opération Barkhane est mort jeudi au Mali dans ses opérations, justement. Et à propos du Mali, à noter aussi une grève des enseignants des universités pour améliorer leurs conditions de travail. Mauvaise nouvelle pour l'ONU et pour l'Afrique aussi, en annonçant la réduction de sa participation au financement des opérations de maintien de la paix, les États-Unis menacent les missions en cours. New York dimanche, Marie Bourreau.
Nikki Haley, la nouvelle ambassadrice aux Nations Unies, l'a confirmé. Washington veut voir sa quote-part réduite de 28% à 25% dans les opérations de maintien de la paix. Pour cela, la mission américaine veut donc passer en revue les 16 opérations en cours, principalement en Afrique, et voir comment faire des économies en les rendant notamment plus efficaces. C'est un travail que l'ONU avait déjà entrepris avec la fermeture en cours de la mission en Côte d'Ivoire en juin prochain, puis au Libéria et en Haïti dans les mois qui viennent. Mais ce qui inquiète les diplomates, c'est la volonté de Nikki Haley de cette attaquer à des opérations de plus grande envergure comme les missions au Darfour, en République centrafricaine ou encore au Soudan du Sud où l'ONU accueille près de 200 000 civils sur ses bases. Dans les rangs des diplomates, on assure donc être un allié des États-Unis pour des réformes et une réduction des coûts, mais certainement pas au détriment de la protection des civils.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages, notamment ceux que vous nous avez envoyés après la disparition de notre ami Laurent Sadou. Je salue quelques fidèles de l'émission. Denis, par exemple, qui nous écoute à Longueuil, au Québec. Bonjour Denis, merci. Un salut à Taïrou, à Mopti, à Chiaka, à Bamako, à Oumar, à N'Djamena, à Diémé, à Dakar, à Dieudonné et Djibril. Et un salut aussi à Stig, qui nous écoute, lui, à Zagreb. Suite d'une semaine d'actualité, toujours en compagnie de Stéphanie Braqueuet, auteur de ce roman formidable que j'ai beaucoup aimé, qui s'intitule « Ligne de suite » chez Jean-Claude Lattès. Avant de retrouver les personnages, les protagonistes de ce roman, Stéphanie, si l'on parlait un petit peu de la Somalie, qui est un pays que vous connaissez bien et qui vit sur les ruines, dans les ruines d'un État, c'est un État failli, c'est ce qu'on appelle un État failli.
Mais qui se reconstruit, en tout cas il y a un certain dynamisme, notamment de la diaspora sur le plan économique.
Alors il y a eu ce mercredi un attentat à Mogadiscio, un véhicule piégé a explosé, et il y a aussi la famine qui menace.
Oui, effectivement, qui menace la Somalie, mais pas seulement. D'ailleurs, dans toute la région, il y a une grande sécheresse qui s'est abattue. Mais après, c'est quelque chose qui revient très régulièrement, malheureusement, pour des raisons de changement climatique, mais aussi de conflits, comme au Soudan du Sud, par exemple. Et en Somalie, effectivement, la situation est assez alarmante, notamment au Somaliland.
Alors on parlait tout à l'heure des frappes américaines en Syrie. Il faut aussi noter que l'administration Trump a étendu les pouvoirs donnés aux militaires américains pour mener des frappes en Somalie justement contre les Shabab.
Les chebabs, en fait, ont montré depuis, et encore récemment d'ailleurs, qu'ils étaient capables de mener des attaques de plus en plus complexes, avec des charges explosives de plus en plus lourdes, contre des quartiers supposés en tout cas très sécurisés, par exemple de la capitale Mogadiscio, visant des hôtels où les officiels et les militaires se rencontrent, mais aussi des institutions du gouvernement. Donc la menace reste encore très importante et ils montrent qu'ils sont capables d'infiltrer les institutions.
Dans votre roman, Stéphanie Braquel, Emma, qui fait donc cette enquête sur son arrière-grand-père, Maurice, entre l'Éthiopie et Djibouti, rencontre beaucoup d'interlocuteurs qui sont finalement désireux de raconter ce qu'ils ont vécu.
Oui, de raconter cet apogée du rail dont ils sont fiers, parce que il y a de quoi être fier. Ces cheminots ont fait marcher ce train et ils en sont à la fois fiers, mais du coup, comme le rail est en voie de disparition, on va dire, il y a aussi une énorme nostalgie qui émane d'eux, une nostalgie pour ce rail qui donc était considéré comme pourvoyeur d'emploi plutôt aisé, plutôt un bon niveau, et maintenant un TGV chinois qui vient tout écraser sur son passage.
Alors un TGV, tout est en relatif, hein.
Oui, mais qui est beaucoup plus TGV que le petit rail qui allait à 30 km/h.
Le nouveau train construit par les Chinois roulera à plus de 100 km/h.
C'est ça. Qui d'ailleurs roule déjà. Il a été, il est entré en opération en janvier, et il ne suit pas forcément tout à fait le même tracé d'ailleurs, donc ce qui pose question aussi pour ces communautés qui s'étaient installées autour de points commerciaux qui étaient nés le long de ce rail et qui vont maintenant devoir faire des kilomètres pour atteindre la nouvelle ligne qui ne va pas s'arrêter aussi dans les mêmes par conséquence.
Nouvelle ligne qui longe en général le tracé de l'ancienne et qui ensuite l'écrase.
Et en fait, quand j'y étais en 2014, j'avais quand même pour but de prendre ce train jusqu'à Djibouti. Et puis en fait, on m'a annoncé que deux semaines avant, la construction du rail avait écrasé l'ancien rail et que donc on ne pouvait plus aller jusqu'à Djibouti.
Dommage.
On
ne
valait qu'à la frontière.
Alors continuons notre voyage africain, Stéphanie, en République démocratique du Congo. Cette fois, le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU s'alarme de la dégradation rapide, dit-il, de la situation dans le Kasaï, c'est-à-dire dans le centre du pays. Florence Maurice.
Il y a d'abord les déplacés, 600 000 depuis le mois d'août, dont seulement un tiers ont pu rentrer chez eux. La majorité, explique Ocha, a fui les affrontements sanglants entre miliciens et forces de sécurité, des hommes, des femmes et des enfants pris en étau sans pour autant être impliqués dans le conflit. Il y a ensuite ceux qui subissent indirectement ces violences. Ocha s'inquiète par exemple pour les familles qui, par solidarité, hébergent des déplacés et partagent donc eau, espace et nourriture, car au rythme où s'étendent les violences, les vivres pourraient rapidement manquer, sans parler de la promiscuité et du risque de maladies, rougeole en particulier. Le principal foyer de cette crise humanitaire reste le Kasaï central, mais en mars, et cela inquiète Ocha, les violences se sont intensifiées et la crise s'est étendue. 5 provinces sont désormais touchées, y compris depuis une quinzaine de jours la province de la Lomanie, jusque-là épargnée. Autre inquiétude pour Ocha, que ce climat de violence et de représailles ne réactive d'autres conflits, parfois latents, entre communautés. Un schéma complexe, déjà observé récemment dans le territoire de Louébo.
Mercredi, le président Kabila s'est adressé aux parlementaires. Il a confirmé qu'il y aurait des élections, sans donner de date, et annoncé la nomination d'un premier ministre, tout cela dans le cadre de l'accord du 31 décembre, à suivre évidemment dans nos journaux. Je vous propose maintenant une étape au Burundi, alors que la population se plaint d'être rackettée par le CNDD-FDD. L'opposition dénonce ce qu'elle appelle une dérive totalitaire de ce parti au pouvoir, je le rappelle, Carole Valade, mercredi.
Les ONG anticorruption dénoncent un système d'extorsion généralisé. L'argent servirait à financer les activités du CNDD-FDD ainsi que les monuments à sa gloire qui poussent comme des champignons, selon l'ambassadeur de France au Burundi. Le parti promet d'intervenir en cas d'excès, mais pour Léonce Gadakoumana, l'un des derniers opposants sur place, c'est le signe d'une dérive totalitaire.
Les piliers de la démocratie dans ce pays, qui sont les partis politiques, la société civile, qui sont les médias, ont été entièrement et complètement détruits. Il n'y a aucun autre parti qui puisse s'exprimer. Nous sommes dans un contexte, on dirait d'un parti État.
L'argent serait prélevé par les Imbonerakure, la Ligue des Jeunes du parti, soupçonnée par l'ONU de graves violations des droits de l'homme. Impossible, dit-on au CNDD-FDD, pour son secrétaire général adjoint, Joseph Takirutimana, ces informations sont déformées à des fins politiques.
Cela a fait partie des stratégies que nos détracteurs ont utilisé pour nous faire tomber. On a aussi parlé de génocide que l'on allait commettre. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? On a exagéré, on a menti sur beaucoup de choses sur le Burundi.
Depuis près de 2 ans, les seules manifestations au Burundi sont celles organisées par le pouvoir. Soit que l'opposition n'a plus de militants, soit qu'elle est enfin devenue raisonnable, affirme Joseph Takirutimana.
Suite d'une semaine d'actualité, en compagnie de Stéphanie Braqueux, nous repartons en Éthiopie et à Djibouti. Nous sommes toujours en Afrique. Ce roman, cette quête familiale, cette enquête d'Emma sur Henri, son arrière-grand-père, sur Maurice, son grand-père, un des fils d'Henri, l'autre étant mort dans des conditions tragiques, Jean, hein, c'est ça. Et c'est une enquête qui nous conduit à réfléchir sur la notion de mémoire, en fait, hein, sur la mémoire au sein d'une famille, oui, avec ses secrets, avec ce qui est dit et ce qui n'est pas dit.
Voilà, entre les mémoires individuelles et la mémoire collective, qu'est-ce que c'est d'avoir une mémoire familiale avec, oui, vraiment ces couches qui sont déposées par les générations. À un moment donné, Henri essaye d'imaginer ce que ça pourrait donner. Il raconte en fait son retour de la guerre 14-18, qui lui, il l'a prolongé jusqu'en 19. Il se demande comment les générations suivantes entendront ce récit de cet aïeul qui se fait trouer le ventre et qui doit ramasser ses tripes tout autour du champ de bataille. Mais ça m'intéressait beaucoup, en fait. C'est un peu une de mes obsessions, en fait. L'interprétation, qui est la base, en fait, de la mémoire, et aussi les distorsions, et qu'est-ce qui est transmis aux générations suivantes, et qu'est-ce qu'ensuite on en fait, comment les secrets ou les souffrances ou les douleurs portent leur empreinte de génération en génération. J'ai découvert récemment que, d'ailleurs, même en neurologie, on a montré, là, depuis récemment, que des traumatismes précédents ont des conséquences sur notre ADN, sur les générations d'après. Donc, il y a vraiment quelque chose qui relève à la fois de la vérité scientifique et de l'inconscient et de... territoire riche pour la littérature, en tout cas.
Et d'évidence, l'impact que peut avoir la vérité, la quête de la vérité.
Est-ce qu'on en a besoin de la vérité? Est-ce qu'il n'y en a qu'une? C'est aussi un des questionnements pour Emma.
Emma se pose la question, d'ailleurs, en découvrant cette photo qui est dès le départ de l'histoire, se dit, est-ce que c'est nécessaire d'essayer de savoir?
Et elle se posera la question jusqu'à la fin. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui la torture un peu, hein, qui l'obsède. Et quand on parle d'ailleurs de la quête de la vérité, on dirait plutôt des quêtes de vérité. Et quand elle cherche des témoins, elle cherche à la fois une vérité, elle se rendra compte que c'est plus une multiplicité de récits, encore une fois, qu'elle va trouver.
Dans une famille qui a du mal d'évidence à communiquer, et où vous dites où il y a un déficit d'amour transmis de génération en génération.
Voilà, qui n'est pas dit, encore une fois, comme un non-dit, une absence d'amour, et qui n'est même pas forcément consciente, ou en tout cas réalisée par les enfants eux-mêmes.
Alors il y a cette histoire familiale, et il y a donc ce cadre, qui est un cadre historique, le cadre de ce chemin de fer, dans un pays, l'Éthiopie, qui change à vue d'œil, semble-t-il. Aujourd'hui.
Qui change à vue d'œil, avec une croissance à 2 chiffres. Dans le roman, on voit que Emma débarque à Addis est presque gênée par les bruits assourdis, les travaux partout, des tubes qui sortent du sol, et avec des barrages hydrauliques, des ponts, des routes, et c'est la politique... vraiment du régime, hein, de développer en accéléré le pays, une industrialisation à toute vitesse qui parfois a des conséquences pas forcément toujours faciles, avec une pauvreté qui reste encore très importante et une espèce de croissance à double facette.
Et il y a donc toujours cet axe ferroviaire jusqu'à Djibouti ? Ou est-ce que le train construit par les Chinois s'arrête à la frontière?
Non, il va jusqu'à Djibouti, puisque l'intérêt, c'est d'avoir un débouché sur la mer.
Ouais. Et donc ça, c'est l'Éthiopie actuelle, comme le Kenya, un pays qui se développe aussi, un pays que vous
connaissez
bien.
Avec les Chinois qui ont investi dans le développement d'un rail, qui lui, pour le coup, a créé beaucoup de polémiques au Kenya, puisqu'il y a eu beaucoup de soupçons de détournement massif d'argent autour de la concession justement de ce rail, qui se construit d'ailleurs, dont on voit les avancées tous les jours, puisque j'habite à Nairobi et que on en parle très souvent et qu'on voit l'avancée de ce rail.
Un petit détail parmi beaucoup d'autres dans le livre, Henri, donc, qui est l'arrière-grand-père, celui par lequel l'histoire commence, aussi est un passionné de photos. Il y a un précurseur en la matière.
Oui, et c'est vrai que, d'ailleurs, on l'a pas mentionné, mais toute la question de la mémoire, c'est aussi beaucoup la question des photos.
Des traces.
Et des traces, et de l'interprétation qu'on peut faire des images. Et on peut raconter plein d'histoires à travers une image. Et Emma passe son temps à revenir vers les photos qu'elle a un peu dérobées, en fait, à l'insu de sa famille, qui n'a pas forcément envie qu'elle mette le doigt sur un secret qui reste tabou. Et elle passe son temps à re-regarder les photos et à essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces personnes qu'elle voit. Et c'est pour ça qu'il y avait cette finalement nécessité de mettre en marche d'autres voies pour que justement on ait différents, encore une fois, différents récits. Je reviens toujours à la même chose.
Merci Stéphanie Moacquet. Et votre roman que j'ai beaucoup aimé, donc que je recommande vivement, s'intitule, il m'a vraiment emmené, s'intitule Ligne de fuite. Il est publié chez Jean-Claude Lattès et bon retour à Nairobi.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée par Mathias Taylor. Je vous retrouve demain pour le magazine ID, cette fois pour un numéro spécial. Nous irons en effet à la rencontre de Nathalie Loiseau, la directrice de l'ENA, l'École nationale d'administration, à 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous aborderons avec elle la question de la fabrication, la formation des élites politiques et des hauts fonctionnaires. Nathalie Loiseau connaît bien ce milieu puisqu'elle a été la DRH, la directrice des ressources humaines du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. Il est demain, dimanche, 17h10, heure de Paris, y compris à Nairobi. Donc, bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.